renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratie, respect de la
politique internationale, juste diversité,
pollution, paix.
Cette semaine à Delirium Environnemental, on commence comme toujours par l'essentiel revue de l'actualité en environnement, concoctée cette semaine par nos deux Nicolas, c'est-à-dire Nicolas Mainville et Nicolas Milo. Il sera question, entre autres choses, de choix énergétiques, d'organismes génétiquement modifiés, d'un rapport accablant de l'ONU et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses, bien sûr, en revue de presse. En troisième partie d'émission, donc, celle où est-ce qu'on reçoit des invités, on a le plaisir cette semaine de recevoir monsieur, je sais pas si on peut dire monsieur, mais oui, monsieur Frédéric Dubois, journaliste indépendant, de retour d'un périple de 6 mois en Amérique du Sud, qui l'a mené de l'Argentine au Chili, en passant par la Bolivie. Il vient nous parler d'exploitation minière et du rôle peu reluisant du Canada dans l'exploitation des ressources. Il va aussi nous parler du saumon, de l'exploitation du saumon au Chili. Il n'y en avait même pas de saumon au Chili avant. Et puis, bien sûr, on va terminer par nos classiques coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine parce que ça nous fait du bien. Sofiane Lejeune au micro pour vous divertir, mais surtout, je l'espère, vous informer en compagnie de l'équipe magique cette semaine composée, comme je vous le disais tout à l'heure, de deux Nicolas. Donc, un Nicolas Mainville et un Nicolas Milo. Messieurs, vous allez bien?
Très bien. Très
oui,
bien.
Oui, oui.
À la régie cette semaine, Hugo qui a accepté à billet levé de remplacer Étienne. Hugo, ça va bien aussi?
Bonjour, bonjour. Ça
merci
va très bien.
Merci d'être là pour nous devant tous ces pitons qui nous déstabilisent un peu, pour dire vrai. Étienne Côté-Paluc qui habituellement s'occupe de la régie, mais pas aujourd'hui, a aussi conçu pour nous notre site Internet qui est au www.radiodelirium.net, site internet sur lequel vous retrouvez une multitude d'informations, dont les nouvelles desquelles on va vous parler aujourd'hui en revue de presse, mais également à gauche de l'écran, deux options intéressantes. D'abord, vous pouvez vous inscrire à la cyberlettre qu'on vous envoie une fois par semaine pour vous tenir informé de ce qui se passe en environnement au Québec, mais aussi pour vous permettre d'écouter l'émission et d'en connaître le contenu, mais également à gauche et c'est pas tout le monde qui comprend cette option-là sur le site Internet. C'est pourquoi je le répète. En cliquant sur le mot « archive », pas sur les choix qu'on vous offre en dessous, mais bien sur le mot « archive », vous avez accès à une page qui vous donne accès à toutes les archives depuis, ma foi, presque les tout débuts de Delirium Environnemental. Et laissez-moi
78,
vous dire,
hein?
ça fait beaucoup d'informations. D'ailleurs, à ce sujet, les deux entrevues des deux semaines précédentes sont toujours disponibles sur le site. Donc, François Meloche, d'Investissement Responsable, c'était tout à fait passionnant. Je n'y étais pas et j'ai eu la joie de l'écouter. C'était tout à fait intéressant. Et aussi, bien sûr, Mademoiselle Bacon, qui nous parlait des OGM à visée pharmaceutique. À ce sujet-là, d'ailleurs, les OGM, c'est le sujet de l'humeur cette semaine. Vraiment, on entend tout et n'importe quoi. Grosse nouvelle cette semaine, paraîtrait-il que 58 % des Canadiens et 62 % des résidents de l'île du Prince-Édouard soutiennent l'idée d'une province sans OGM. Bien, j'y trouve bon de pouvoir se prononcer sur des questions comme ça, parce qu'il me semble qu'on n'entend pas grand-chose, puis ce qu'on entend sur les OGM, c'est pas très représentatif de la réalité OGMienne. Alors, dans le contexte où est-ce que le projet de loi C-27 est discuté, je pense que c'est d'autant plus d'intérêt de commencer par une humeur sur les OGM, mais avant de vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est la loi C-27, je suis tombée sur une petite citation de Léonard de Vinci. C'est rare qu'on cite de Vinci, hein, mais je sais pas pourquoi, il me semble que je vais vous lire cette citation, puis vous verrez, on dirait qu'il parle d'OGM. Nombreux sont ceux qui, en faisant le commerce de supercheries et de miracles simulés, duperaient la multitude insensée. Et si personne ne les dénonçait, si personne ne dénonçait leur superfuge, ils en imposeraient à tous. C'est à croire qu'il parlait des OGM, non? Il y avait Camus aussi qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Moi, les citations, vous savez, j'aime bien ça. Donc, le projet de loi, c'est 27 qui... Comment qu'on avait dit ça la dernière fois? Tarabacote? Qui se tergiverse à l'Assemblée, non pas à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, excusez-moi. C'est un projet de loi qui parle à l'industrie semencière principalement et aux agriculteurs, donc qui s'adresse à eux, qui vise à simplifier la réglementation afin qu'on puisse plus facilement autoriser de nouvelles espèces, tout particulièrement les nouvelles espèces du génie génétique, bien entendu, qui vise aussi à imposer une taxe sur la réutilisation des semences des agriculteurs, donc pas seulement les semences GM, mais bien toutes les semences, à assurer la subvention des recherches, donc pas nécessairement des recherches visant à prouver l'innocuité des OGM, mais bien de développer de nouveaux produits qui vont ouvrir de nouvelles parts de marché à ces grandes compagnies. Quelque chose que j'ai trouvé tout à fait étonnant d'apprendre, c'est que les gens qui sont sur le comité consultatif de ces... pour ce projet de loi-là, donc ceux qui conseillent le gouvernement dans ces projets-là. Écoutez, c'est facile, c'est Monsanto, Pioneer Hybrid, Bayer's Crop Science et BASF. toutes des compagnies semencières qui s'en mettent plein les poches. Je comprends qu'ils veulent un peu faciliter la réglementation, ou plutôt alléger la réglementation. Chose qui est importante de savoir peut-être sur les OGM, je trouve qu'on dit tout et n'importe quoi. Puis, Nicolas, tu me reprendras, tu connais bien le dossier aussi, donc si je me trompe, mais essentiellement, pas qu'il y a seulement ça, mais essentiellement, quand on parle d'OGM au Canada, il y a 4 variétés de produits, donc le soya, le maïs, le coton et le colza, qui ne sont pas OGM à toutes les sauces, en fait, qui sont OGM principalement pour tolérer un herbicide ou tolérer ou résister à un insecte ou ces deux combinaisons-là de caractères.
En gros, oui, ça ressemble à ça.
Puis en gros, c'est pour endurer, être capable de tolérer du glyphosate, qui est un pesticide qui, de plus en plus, on le voit, est peut-être pas très bon pour la santé. Un des gros arguments des compagnies semencières, c'est que quand on va utiliser les pesticides, quand on va utiliser des OGM, on va utiliser moins de pesticides. Eh bien, c'est faux. En 2004, augmentation de 4,1% de l'utilisation des pesticides aux États-Unis. Mm-hmm. Et puis ça, 4,1%, ça représente 122 millions de livres de pesticides. Mm-hmm. Bon appétit tout le monde, si vous n'avez pas les moyens de payer de la pauvre bio. C'était ma petite humeur, je trouve que les OGM, là, présentement, est en train de se brasser un gros dossier, c'est celui du projet de loi C-27. Tous ceux qui voudraient agir, parce que je pense que c'est important que les citoyens se prononcent sur ces questions-là, au moins pour réclamer un débat public, qui a l'air d'un débat public, ce serait en écrivant à vos députés. Mais pour savoir tout ce qu'il faut savoir sur ce dossier-là, l'incontournable, ben, c'est le site de Greenpeace Canada qui vous invite à écrire à vos députés. Retour à Delirium environnemental. En fait, enfin, on commence Delirium environnemental pour de vrai, au moins la première partie, qui est la revue de presse, revue de l'actualité. Grosse nouvelle sortie la semaine passée, je m'excuse, mais le mot, cette fois-ci, s'applique. Le journal titrait l'écosystème, pas les écosystèmes. Bon, c'est un journal, ils n'ont pas la vérité, c'est sûr. Mais titrait l'écosystème mondial en danger. Périclite, attention, alarme. Gros rapport de l'ONU qui va de constat, ma foi, absolument accablant sur
oui,
la planète.
On parle souvent de grosses nouvelles. On met souvent cet adjectif-là parce que c'est à chaque fois plus inquiétant, plus grave comme remarque. Mais cette semaine, c'est sans doute la plus grosse des grosses. Ça s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment, donc l'évaluation du dernier millénaire au niveau des écosystèmes présents sur la planète. C'est une étude gigantesque qui a été réalisée par 1300 experts dans 95 pays. C'est des millions qui ont été investis là-dedans. Et c'est la première étude du genre depuis le fameux rapport Brundtland en 1987. Donc, quelque chose d'envergure qui couvre les écosystèmes planétaires. On en décompte environ 24 grands écosystèmes planétaires. Et la grande conclusion, c'est que 15 de ces 24 écosystèmes-là, eh bien, subissent actuellement des stress tels qu'ils seraient susceptibles d'affecter très sérieusement les humains. Donc, notre propre vie est en danger à cause de nos propres actions.
C'est pas déjà ce qu'on disait en 87, en 92, au sommet de la Terre de Rio. Puis
mais ça fait longtemps qu'on se dit ça. Et ça fait longtemps que les environnementalistes et les écologistes le crient tout haut. Ça fait longtemps que les économistes de cette planète leur disent « Ouais, ouais, vous criez tout le temps avant qu'il y ait vraiment des problématiques réelles. » Mais là, l'ONU, de par son rapport qui a été réalisé en grande partie par le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, en compagnie de fondations privées. Et bien là, c'est unanime. 4 grands constats qui sont présents au sein de ce rapport-là. Premièrement, eh bien, celui que les humains ont modifié tellement les écosystèmes en 50 ans que c'est la plus grande modification de l'histoire de la planète en aussi peu de temps. Donc, on parle entre autres qu'aujourd'hui, c'est 24% de la surface de la planète qui est vouée à l'agriculture. Donc, ça veut dire qu'on a transformé 24% des surfaces terrestres sur la planète pour pouvoir faire pousser des choses qui servent à notre alimentation. Quand on regarde ça, 24%, est-ce que c'est le corps? Oui, mais c'est le corps de la planète, mais c'est une énorme partie de ce qui est exploitable. Le reste, le trois quarts de la planète qui reste, ben c'est des montagnes dans la plupart des cas, c'est des déserts, c'est des zones qui ne seraient pas propices à l'agriculture. On a pratiquement saturé l'utilisation des sols au niveau de l'agriculture, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben il y a de moins en moins de milieux naturels pour que les espèces puissent vivre. 12% des oiseaux, 25% des mammifères et au moins 32% des amphibiens sont menacés de disparition au cours du prochain siècle.
Et durant ce temps, au cours du prochain siècle, et pendant ce temps, il y a quand même des gens qui continuent de mourir de faim, d'être sous-alimentés, malgré l'augmentation des terres vouées à la culture, parce que c'est peut-être pas fait de façon équitable ou intelligente.
Exactement. Puis si vous vous rappelez, en 2000, lorsqu'on a lancé les objectifs du millénaire, le programme de l'ONU, était, ben, le principal objectif était d'éradiquer 50% de la pauvreté d'ici à 2015. Mm-hmm. Vous vous rappelez de ça? C'était un gros objectif, la fierté de Kofi Annan. On voulait vraiment foncer dans la question de la pauvreté en disant, écoutez, il y a une relation directe entre la pauvreté et l'environnement. On peut pas sauver l'environnement sans s'adresser à la question de la pauvreté. Ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que les problématiques environnementales rattrapent beaucoup plus rapidement la question de la pauvreté qu'on le pensait. C'est-à-dire qu'un environnement dégradé va affecter la survie des populations. Et puis, les estimations qu'on avait faites étaient un petit peu erronées, à savoir, on pensait que nos écosystèmes allaient résister un petit peu plus facilement à la présence humaine. Ce qu'on sort comme chiffre dans ces rapports-là, c'est de dire, écoutez, la pauvreté va être accélérée et non pas réduite malgré les efforts qui sont faits en ce moment, surtout en Afrique subsaharienne, parce que la dégradation des écosystèmes est accélérée et la pression qu'on fait, est démesurée.
Oui. Donc ça, c'est pour la dimension pauvreté. On parlait de quatre grands constats. Là, il y avait la disparition des espèces. On voit bien que ça, c'est directement lié avec l'espèce humaine, parce que oui, nous ne sommes qu'une espèce parmi tant d'autres, même si on s'impose.
Tout à fait. Les autres constats, dans le fond, vous allez remarquer que ce qu'on vous dit aujourd'hui, les grands constats de ce rapport-là, eh bien, c'est des choses qu'on savait déjà. Mais au moins, enfin, la plus grande instance internationale, l'ONU, l'affiche publiquement et surtout endosse les propos. Le deuxième grand constat, c'est que les gains réalisés par les humains pour satisfaire leurs besoins trop souvent luxueux, eh bien, a été fait aux dépens des générations futures. On est déjà en train d'emprunter sur le capital de nos enfants. Et donc, on a deux exemples qui sont très, très frappants. C'est l'eau douce. On est en train de boire ou d'utiliser ou d'industrialiser plus d'eau douce que la Terre est capable de nous en redonner année après année. Il y a des régions d'Afrique où est-ce qu'on puise 120% de l'eau douce qui est produite par année. Donc, on est en train d'emprunter ça à nos enfants. Mm-hmm. Et il faudrait pas trop se regarder vers l'Afrique, parce qu'au Québec aussi, on a des comportements qui sont très problématiques. Il y a des villages au Québec qui sont en pénurie d'eau parce qu'il y a une multinationale qui est venue se servir à même la nappe phréatique de ces villages-là qui, eux, c'est un besoin de la vie de tous les jours, de boire de l'eau.
Pas de faire des profits.
Et ces industries-là sont venues complètement prendre cette ressource-là, qu'on appelle ressource, mais qui est l'eau douce. Une autre question, c'est les pêcheries. On a complètement vidé nos stocks. Là, on nous dit des fois, par-ci, par-là, que le stock de morue est en train de reprendre
la vigueur.
Je sais pas si on l'a même fait,
mais
calculateur.
On a complètement vidé ça. Aussi, des choses, les écosystèmes les plus critiques pour les humains semblent en voie de se détériorer au point de compromettre la lutte contre la pauvreté. Et je vous rajouterais cette chose-ci, c'est qu'on est en train aussi de rendre plus facile la propagation des maladies en dégradant les écosystèmes. Mmh. Par exemple, la déforestation accroît les ravages de la malaria et du choléra parce que ça favorise, entre autres, la dissémination des agents pathogènes dans l'environnement. Donc, c'est...
Entre autres, mais ça soulève aussi des tensions qui souvent provoquent des conflits. On avait vu le conflit autour de la question de l'eau au Kenya cet automne, ou encore on a vu à travers les articles de l'État de la planète l'impact de la déforestation sur le conflit au Rwanda. Il y a déjà 10 ans de ça. Mmh.
Tout à fait. Et c'est un peu pathétique de voir quand... quasiment venir à cette conclusion-là, mais ce que ça nous dit, c'est pratiquement que à quoi ça sert de se mettre à lutter contre la pauvreté si un jour, il risque de même plus avoir de milieux plus pauvres sur la Terre, parce que là, il va y avoir soit une migration ou soit, comme tu viens de dire, des conflits qui vont naître entre les pays, parce qu'il n'y aura plus moyen de subsister dans les régions qui sont aujourd'hui touchées par les phénomènes de pauvreté. On pense entre autres à l'Asie, on pense à l'Amérique du Sud et on pense à l'Afrique. On est en train de rendre ces milieux-là tellement peu vivables à cause de la détérioration de l'environnement que il va falloir qu'on reconsidère le problème de la pauvreté d'une façon complètement différente. Est-ce que ces gens-là vont migrer vers des zones qui sont encore supportables? Est-ce que les conflits vont naître entre ces groupes-là pour être capable d'avoir accès aux dernières ressources qui sont disponibles? Puis on rappelle que pour eux, c'est des ressources qui impliquent leur survie. Alors qu'ici, pour nous, une ressource, c'est une question de profit. Mm-hmm. Et c'est deux mondes, mais c'est une même planète.
D'ailleurs, justement, peut-être revenir sur cette question-là, parce qu'on peut aussi se rappeler, là, on parlait beaucoup de ce qui se passe dans ces pays-là, il faut se rappeler qu'il y a 15 % de la population qui consomme 80 % des ressources. Donc, c'est pas simplement de régler les problèmes bout de tuyau, mais bien de s'attaquer aux causes. cause, aux sources de ces problèmes-là.
Exactement. Je pense que ce qui est lancé par l'ONU, c'est une espèce d'appel au virage drastique, un virage économique, mais aussi social, à savoir est-ce qu'on est capable de réorienter nos choix politiques, nos choix économiques pour justement éviter de foncer dans ce mur-là, le mur qui est prédit par cet immense rapport. Je veux dire, 1300 scientifiques qui se mettent ensemble pour dire d'une seule voix, écoutez, on s'en va dans ce mur-là. Mm-hmm. Ça commence à être crédible. Je pense qu'on n'a pas besoin d'accumuler des rapports comme ça. Le cri qui est lancé est assez clair. Ce que l'ONU dit, si on veut changer ce virage-là, ben, il va falloir faire des concessions. Puis je pense que ça nous appelle, nous, directement dans les pays riches, à reconsidérer notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre façon de gérer la planète comme on le fait en ce moment. Puis je pense que j'aimerais faire un appel à nos auditeurs, à savoir aller visiter le site Internet, le Millennium Assessment, qu'on va mettre sur notre site Internet à radiodelirium.net, où est-ce que vous allez pouvoir voir en détail justement ces points-là, les grandes déclarations du rapport. Vous pouvez même aller le voir sur greenfacts.org/écosystème. On va le mettre aussi sur notre site, où est-ce que vous pouvez voir en détail les différents aspects de ce rapport-là. Et puis, en plus d'être avec un vecteur de changement, puisque informé, vous allez pouvoir en parler autour de vous, puis peut-être influencer toute votre parenté pour essayer que...
On ne fonce pas dans ce
mur-là. On est capable de l'éviter, puis je pense que les solutions sont là, puis on est capable de le faire.
C'est un beau défi à la limite.
Tout à fait. Et c'est sans doute là le dernier point de ce rapport-là qui nous dit que le renversement des tendances qu'on appréhende comme nécessaire pour corriger la situation, eh bien, ça implique des modifications radicales au niveau des politiques, mais surtout de nos pratiques d'exploitation. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que la plupart de ces changements-là sont même pas encore en chantier. Mm-hmm. On n'est même pas encore en train de procéder à ces idées-là. Kyoto, là, on n'est même pas encore à cette ère-là. Donc, quand on dit d'aller voir ces sites-là, d'aller se renseigner là-dessus, mais c'est un peu pour nous éclairer puis pour reconsidérer un peu notre façon de vivre parce que, désolé, mais c'est ce que ça va prendre. Mm-hmm.
Retour à Delirium environnemental. On vous parle toujours d'actualité environnementale. Ça le dit dans le nom.
Ben oui.
On revient donc ici au Canada. On parlait de la planète et du piètre état des écosystèmes. Maintenant, on va vous parler des piètres efforts que s'apprête à faire l'industrie automobile pour répondre aux exigences de ces nouveaux défis qui s'offrent à nous, l'humanité. Peut-être juste revenir, on a dit c'était une très grosse étude, etc. Puis ce cri d'alarme-là avait déjà été lancé à la fin des années 60, au début 70, 87. Après ça, je m'excuse, en 80. Je pense pas que ça enlève aucun crédit à ça. Ça fait juste nous dire, écoutez, c'est exponentiel la vitesse à laquelle on s'en va dans le mur, puis c'est tout ce que ça fait. Ça confirme ça, puis c'est important qu'on le redise à chaque fois, parce qu'autrement, ça va être tabletté, ces rapports-là, je m'excuse. Donc, commentaire justement, puis réinviter les gens à aller voir l'ouvrage de l'ONU, mais en fait, les ouvrages de l'ONU, parce qu'il y en aura plus qu'un. Donc, plus proche par ici, l'industrie de l'automobile, elle, a vraiment aucunement compris les défis de...
Peut-être plus le gouvernement.
Oui, peut-être compris. Plus, parce que l'industrie automobile, elle, je pense qu'elle a des intérêts très personnels là-dedans. Et elle les a fait valoir. Et le gouvernement fédéral canadien n'a pas su se tenir debout devant cette industrie malheureusement trop puissante.
On parle évidemment de Kyoto. Hein.
On parle,
on l'avait pas mentionné.
Ça entre de plein... en plein dans les objectifs du protocole de Kyoto. Dans le fond, vous savez que le protocole de Kyoto vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012. Eh bien, les constructeurs automobiles et Ottawa se sont entendus à ramener les émissions de gaz à effet de serre de 5,3 mégatonnes de moins d'ici 2010. 5,3 mégatonnes de moins, ça correspond environ à 2% de l'effort canadien qui doit être fait selon Kyoto. Et pour vous donner des petits chiffres à titre de comparaison, le transport routier au Canada, c'est 17% des émissions. Donc, on voit que c'est 2% sur une responsabilité de 17% qui est totalement ridicule. Mmh. Vous donnez une autre idée. Vous savez, le défi d'une tonne, ce magnifique défi pan-canadien qui invite tous les Canadiens et Canadiennes à réduire ses émissions personnelles d'une tonne, eh bien, si tous les Canadiens...
Le gaz à effet de serre,
oui. Ses émissions
d'une tonne... Perdez pas une tonne.
C'est un programme contre l'obésité. Eh bien non. Donc, si tous les Canadiens réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre d'une tonne, eh bien, on atteint une réduction de 12 %. Donc, vous voyez à quel point on ne demande absolument rien à l'industrie automobile. Et en plus, ce sera un programme de réduction volontaire.
Ah,
eh bien oui, vous l'attendiez. Donc, pas besoin de vous dire que le Bloc québécois, le NPD, milite pour des mesures comme on voit en Californie, c'est-à-dire des mesures de 20-25 %. Obligé, donc avec restriction de la part de l'État.
C'est d'autant plus dommage que l'industrie automobile fournit justement cet outil de pollution pour les citoyens et citoyennes. C'est-à-dire que si au moins ce que l'industrie automobile offrait était moins polluant, si dans leur pratique de conception de ces véhicules-là, c'était moins polluant, c'était plus, réfléchi, songé, conscientisé.
Tout à fait, parce qu'on
voit... Ça permettrait à tous de faire un pas dans la bonne direction.
Parce qu'on voit que dans l'entente, on appelle, entre autres, l'industrie automobile à mettre de l'avant davantage, entre autres, les fameux moteurs hybrides, ou à faire la promotion des carburants de remplacement comme l'éthanol. Il y a les biodiesels qui peuvent exister. Mais le problème, c'est que si on augmente le nombre de voitures sur les routes en même temps, ces réductions-là ne valent absolument rien. Écoutez, on n'aura pas atteint d'objectifs de réduction globaux si on augmente le nombre d'automobiles sur les routes. Donc, bon, c'est encore une fois une nouvelle que le Parti libéral du Canada va vous présenter comme une excellente nouvelle, mais qu'avec un moindre petit regard critique, on se rend rapidement compte que c'est du cosmétique.
N'importe quoi!
Non, je pense que le gouvernement fédéral fait de plus en plus piètre figure. Vous savez qu'on attend toujours le plan Kyoto. Je peux dire, on le dit à chaque semaine, mais il n'est pas arrivé encore, donc on le dit encore. Il est où, ce plan-là? On l'a pas. Mais tout ça pour dire que en plus de pas l'avoir, les négociations sont à la baisse en ce moment et les rumeurs sont à dire que bon, apparemment sur les objectifs qu'on s'était fixés au début sur les grands pollueurs canadiens, c'est-à-dire l'industrie lourde, le transport et bon les centrales thermique surtout, productrice d'énergie. On est en train de diminuer de 30 % ces objectifs de réduction-là. Donc, on s'était fixé des objectifs assez, souples, mais quand même exigeants, qui étaient d'environ 55 mégatonnes de réduction pour l'ensemble de l'industrie. Et puis, bon, on était arrivé à une entente d'environ 39 mégatonnes pour l'ensemble de l'industrie, ce qui a été encore...
quand même, on parle de 15 mégatonnes de moins.
De moins, c'est un calcul rapide, mais oui, okay. En fait, 16. C'est 16 mégatonnes. Mais bon, apparemment, les négociations sont encore plus à la baisse. Et puis, vous connaissez l'espèce de litige qui se passe en ce moment avec la loi canadienne sur l'environnement. Pour faire une histoire rapide, la question d'inclure dans la loi d'application du budget une modification de la loi canadienne en environnement qui exclurait le mot « toxique » de cette loi-là, juste pour pouvoir inclure les gaz à effet de serre dans la législation, fait un gros tollé. On en a parlé la semaine passée parce que ça menace en gros, ça menace le Parti libéral d'être kické en dehors du gouvernement parce que, bon, autant la NPD que le Bloc que les conservateurs veulent rien savoir de cette histoire-là.
En fait, ce qui arrive, c'est qu'ils ont fait comme un gros paquet de projets de loi, puis plutôt que d'aller une loi à la fois puis vouloir revoir le terme toxique tranquillement, ils ont tout caché ça avec le projet de loi sur le budget puis sur les accords atlantiques.
Exactement.
Un peu n'importe quoi quand, en fait, ça demande une grosse réflexion quand même. Ce mot-là est très porteur.
Bien, puis surtout, les conséquences sur l'environnement sont majeures. C'est
oui,
dommage
c'est
qu'on passe ça comme des petites lois faciles. Mais il y a 8 groupes qui se sont mis ensemble cette semaine pour justement dénoncer cette pratique-là et puis s'assurer qu'il n'y ait pas de modification à la loi canadienne sur l'environnement, mais bien qu'on construise une nouvelle loi pour dire, écoutez, on va légiférer les émissions de gaz à effet de serre de façon formelle pour qu'on s'entende que c'est un dossier extrêmement important à gérer. Malheureusement, du côté de Paul Martin et de son cabinet, la réaction a été relativement furieuse, c'est-à-dire qu'on dit qu'on les groupes environnementaux en ce moment vont probablement provoquer l'échec des négociations les plus prometteuses, c'est-à-dire cette atteinte du 39 mégatonnes que je parlais. Le 39 mégatonnes pourrait ne pas être atteint à cause des pressions des groupes environnementaux qui disent ça n'a pas de bon sens. Donc évidemment, c'est du n'importe quoi puisqu'on joue avec les mots, d'autant plus qu'on est extrêmement en retard dans ce dossier-là et les gens commencent à s'impatienter royalement. Et même l'industrie, même les groupes économiques un peu partout au Canada se disent les écouter, on veut vos chiffres, parce que pendant ce temps-là, nous, on perd notre temps. On peut pas faire la spéculation sur les crédits d'échange de carbone. Vous savez qu'il y a un gros marché mondial qui s'installe en ce moment, et puis les chiffres sont pas connus, donc il y a personne qui peut embarquer dans la vague Kyoto, et puis on a de l'air de belles bandes de caves.
En tout cas, des oeuvres, ça c'est sûr, des beaux oeuvres. Est-ce que ça complète le dossier énergie? Ça me semble presque impossible.
Ben, moi, je veux dire, on pourrait en parler pendant longtemps. Nico, t'as-tu...
Ouais, ben, Kyoto, sinon, je peux vous finir ça sur une citation, ma foi, tellement décourageante. David L. Emerson. Qui est David Emerson? C'est notre ministre de l'Industrie au Canada, qui nous dit la chose suivante. Une industrie automobile forte est une pierre angulaire de l'économie au pays, comme en Ontario.
Je comprends pas.
Alors, pour ceux qui ont encore des doutes sur le fait que les intérêts du Parti libéral du Canada sont ceux de l'Ontario et pas nécessairement ceux du reste du pays, eh bien, vous en avez une preuve de plus. L'important, c'est d'assurer aux Canadiens et Ontariens des emplois de qualité et bien rémunérés.
Bon, ben bonne nouvelle pour les Ontariens du Canada. Merci beaucoup. Au retour, on vous parle du technoparc qu'on veut construire. Non, c'est pas vrai. On parle d'une grosse découverte aux États-Unis, une ressource alternative d'énergie. Je suis toute excitée. On s'en va en musique pour retour.
Pas si alternative que ça.
Ça dépend de l'alternation qu'on parle.